française.
Latina.
La franco-latina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bonjour, bienvenue au Boulevard Franco-Latino. Aujourd'hui, un boulevard exceptionnel. Nous ne sommes pas dans les lieux habituels à la Maison de l'Amérique latine. Nous sommes pas loin, nous sommes ailleurs. Nous sommes à l'espace Louis Vuitton. Et c'est avec la musique de Gustavo Santaolalla, La Partida, le départ de la bande son du film Journal de motocyclette, le film sur l'histoire du Che Guevara, que nous commençons ces boulevards exceptionnels. Exceptionnels parce que, je vous le disais déjà, il se passe ailleurs, il se passe à l'espace Louis Vuitton, du côté des Champs-Élysées, au 7e étage de l'immeuble de la maison Vuitton. Il y a cet espace où, depuis quelques jours, il y a l'envers du décor chilien. Une exposition curieuse, déjà à l'origine, différente, mais devenue particulièrement curieuse après les événements que l'on connaît. Nous allons discuter ici avec une véritable tribu qui travaille à l'espace Vuitton autour du travail de l'espace lui-même et en particulier de cette exposition. Tribu à la tête de laquelle il y a Marie-Ange Moulonguet, directrice de l'espace, à laquelle je dis bonjour. Bonjour Marie-Ange, bienvenue dans le boulevard. Merci de cette hospitalité.
Bonjour Eduardo, on est très très heureux d'être avec toi aujourd'hui et je dirais spécialement aujourd'hui dans ces moments qui nous lient au Chili plus qu'on n'aurait pu jamais y penser.
On a discuté avant le vernissage de l'exposition lorsque je vous avais demandé pourquoi le Chili. Vous m'aviez expliqué entre autres choses et vous aviez insisté beaucoup là-dessus. J'étais au Chili et j'étais frappé, entre autres choses, ou principalement même, par la nature. Vous avez dit la nature s'impose, la nature est là de façon très présente et elle est même présente dans cette exposition. Depuis quelques jours, la nature s'est imposée, la nature a parlé fort, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris les événements du Chili, à savoir ce tremblement de terre du 27 février dernier ?
J'ai appris, mais très fortement, j'allais dire dans mon corps en fait, que ces choses qui s'étaient passées pour la dernière fois en 1960 peut-être n'allaient plus se passer d'ici très longtemps, et que quand on l'a appris, c'était vraiment là, c'était à nouveau là, et il y a eu comme un espèce d'écho assourdissant à cette terreur qu'on avait chacun en soi, et puis qui s'est matérialisé à l'aube de la présentation de cette exposition avec un vécu extrêmement particulier, parce que nous vivions avec tous les artistes qui étaient venus des quatre coins du Chili et un autre de New York, et on avait passé 10-12 jours ensemble, et on venait de se quitter dans une espèce d'allégresse, d'euphorie. On avait partagé vraiment des moments d'exception, on en avait tous rêvé de ces moments de partage. On s'était promis qu'on allait se revoir, on avait créé des liens, on avait ri, on avait parfois pas pleuré, mais on s'était ému de beaucoup de choses. Enfin, on avait vécu ensemble, on s'était quitté, et puis tout d'un coup, la pensée de tous ces nouveaux amis, en fait, qui chacun était reparti dans leur pays, pour l'un d'ailleurs n'arrivait pas à repartir, m'a semblé une espèce de signe très bouleversant du fait qu'on dit toujours que l'art est à part, et là, l'art et la vie étaient totalement ensemble, que la fiction et la réalité se rejoignaient, d'autant plus que, mais on aura beaucoup l'occasion d'en reparler, il y a une œuvre extrêmement signifiante de cet événement, mais que l'artiste avait voulu transcender par un regard artistique, qui est cette œuvre de Francisca Garcia sur le tremblement de terre.
Nous allons y revenir. Je voudrais maintenant me tourner vers Hervé Kaelhoff. Bonjour, bienvenue sur ce boulevard exceptionnel. Vous êtes le commissaire de cette exposition, comme des expositions précédentes que l'espace Vuitton a consacré au voyage. Est-ce que, pour vous, le fait d'avoir choisi, d'une part, cette œuvre dont vient de parler Marie-Ange Moulonguet, Le tremblement de terre, Une deuxième œuvre que l'on voit aussi avec des yeux différents, c'est une œuvre où on est extasié face à une sorte de démesure d'une piscine la plus grande du monde, dit-on, qui est une sorte d'espace très pacifique face à l'océan qui porte le même nom, mais qui ces derniers jours s'est plutôt obstiné à démentir son nom de Pacifique, puisque, on le sait maintenant, le tremblement de terre a été grave. Le raz-de-marée, les tsunamis a été pire, tout au moins en vie humaine. Vous-même, quand vous pensez, je dirais avec le recul, à ce qui vous a impressionné, à ce qui vous a amené à choisir ces œuvres, quelles sont vos sensations? Et justement par rapport aussi à ce dont parlait Marie-Ange Moulonguet, la façon dont cela s'entrecoupe, cette exposition, ces œuvres, avec la réalité.
Bonjour, donc en juin 2009, nous sommes partis avec Marie-Ange à Santiago pour rencontrer des acteurs de l'art contemporain chilien et notamment des artistes. On a vu beaucoup d'ateliers d'artistes et tout de suite, ce qui nous a frappé, c'était la volonté de ces artistes de produire des œuvres. Donc je crois qu'une des particularités de cet espace rue de Bassano, c'est la possibilité d'emmener des artistes dans des voyages lointains et de les faire venir à Paris pour travailler sur des nouvelles productions. Ce qui était le cas de Francisca Garcia, qui a beaucoup travaillé dans le cinéma et pour la télévision, et qui a souhaité, dès le départ, faire une œuvre nouvelle. Quand elle nous a indiqué sa proposition de travailler sur les témoignages du tremblement de terre de 1960, qui a été le tremblement de terre le plus puissant enregistré à ce jour, l'idée nous a paru intéressante parce que effectivement, elle faisait partie, je dirais même, de l'identité chilienne à travers le vécu, à travers la particularité du pays. Ne sachant pas exactement ce qu'elle allait tourner comme image, on a découvert réellement l'œuvre le jour du montage, une dizaine de jours avant l'exposition. Et moi, j'étais frappé à la fois, effectivement, par la vérité de cette œuvre, c'est-à-dire dans son témoignage où elle avait retrouvé des gens qui avaient vécu le tremblement de terre dans leur chair, et notamment sur des bateaux qui étaient amarrés auprès des côtes. Et aussi, ce qu'elle a raconté, ce qui aujourd'hui, moi, me frappe particulièrement, cet effet, effectivement, raz-de-marée, tsunami, qui s'est passé il y a maintenant 15 jours, et qui montrait en fait tout le problème qu'il y avait autour de cet événement. Donc c'était un peu une œuvre miroir, certainement. Pour répondre à votre question sur l'autre œuvre de Nicolas Rupchich, Big Pool, là c'est une œuvre qu'on a vue, qui était déjà réalisée, qui nous a paru intéressante dans son absurdité urbanistique, parce qu'elle montre la plus grande piscine du monde jamais réalisée, qui fait 1 kilomètre de long, qui a été construite parallèle à la mer. Donc c'est plutôt de cette qualité-là, finalement, de cette absurdité, de ce côté un peu cocasse de l'œuvre de Nicolas Rupchich, qui est un artiste assez jeune, et sa référence évidemment à David Hockney ou d'autres artistes, moi qui m'a paru intéressante.
On va revenir là-dessus, et je voudrais dire à nos auditeurs, si jamais vous entendez une sorte de rumeur qui est une rumeur de fond, vous n'avez aucun problème chez vous, c'est chez nous. C'est une rumeur qui est en rapport avec le sujet dont on parle en ce moment. On revient tout de suite, on va écouter une première chanson, des chansons latino-américaines, des chansons d'autres pays d'Amérique latine. C'est une grande dame de la chanson péruvienne, elle s'appelle Chabuca Grande, et là, à l'occurrence, elle chante en français une valse créole.
La valse créole serait que ça, un tout petit, petit comme ça, mignon dentelle de petits pas, ça va. Voici la plus humble de valse, tissée des rêves ensoleillés, venue de loin, si loin, à toi. Ah, c'est ça que je cherche, pays, désespoir pendant l'enivrement de valse créole. Exotique tendresse que je te donne, comme un bouquet d'après caché, c'est un cadeau de temps jadis encore, un tout petit de plus de ça, mais tout petit, petit comme ça, mignon dentelle de petits pas, ça va.
Voici la plus humble de valse, tu sais, de rêve ensoleillé. Humble de valse, tu sais, de rêve ensoleillé. Béni des loin, si loin à toi. C'est ça que je cherche, pays. Désespoir pendant la nuit, roman de valse créole, exotique tendresse que je te donne. Comme un bouquet d'avis caché, c'est un cadeau d'étingerie encore. Un tout petit de plus de sœur, mais tout petit, petit comme sa mignon dentelle. De petits pas, ça va. Voici la plus humble de valse, tissée de rêve ensoleillé, béni de loin, si loin, à toi.
Chabuca Granda, Chabuca Granda, péruvienne, chantait cette valse créole avec cette voix vraiment merveilleuse qui était la sienne, cette grande dame de la chanson péruvienne et ce qu'on appelle el vals criollo. Nous sommes donc à l'espace Vuitton, où il y a cette exposition qui se tient jusqu'au 9 mai prochain. Vous avez le temps de venir. Et là, on va essayer de vous donner des bonnes raisons éventuellement pour venir. Il y a quelqu'un qui est déjà venu, qui est là d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Emenier. Il est blogueur. Nicolas, vous êtes venu, vous avez vu. Quelles sont vos impressions comme ça au pied levé?
Alors, comme toutes les expositions que j'ai pu voir jusqu'ici, ce que j'aime, c'est qu'il y a des idées autour d'un voyage, déjà. Et des idées qui vont plus loin que les idées reçues qu'on peut avoir sur ce pays. Par exemple, on connaît du Chili sur tous ses paysages, donc on voit des œuvres qui mettent en avant des portraits, des personnes. Donc on voit qu'il y a une culture derrière un pays. Donc c'est des choses qu'on aime découvrir ici. Et si on regarde, on a beaucoup parlé de cette fameuse œuvre du tremblement de terre. C'est une œuvre aussi qui apporte plus que cette idée du tremblement de terre, plus que les catastrophes. On a des images calmes qui sont en contraste avec les images violentes qu'on a l'habitude de voir dans des médias. Donc qui donnent vraiment une autre idée, un autre ressenti, certainement peut-être plus réaliste, puisque ça passe vraiment par le bruit, donc quelque chose de plus viscéral qu'un ressenti terrible et presque dégoûtant qu'on a l'habitude de voir dans les images de cadavres des journaux télévisés.
C'est quand même pas un tremblement de terre qui vous soit devenu une idée attractive.
C'est quand même, on peut dire que c'est une idée attractive dans le sens où elle nous fait voir une autre vision de la réalité. Et c'est ce que j'aime dans l'art contemporain.
Est-ce qu'il y a une autre œuvre qui vous a particulièrement frappé?
Il y a aussi cette fameuse légende chilienne du cuir vivant que je trouve retranscrite d'une manière assez originale en vidéo, vraiment très proche du ressenti qu'on peut avoir aussi. On sent que l'artiste a mis beaucoup d'elle dans cette œuvre, dans cette vidéo, qui est à la fois très reposante et un petit peu angoissante par certains côtés également. Une œuvre également donc, qui nous met dans l'ambiance de l'artiste et qui fait ressentir les sentiments de cet artiste.
Merci Nicolas. Nicolas Emenier, visiteur de cette exposition, l'envers du décor chilien, d'où nous sommes en train de vous présenter ce boulevard franco-latino exceptionnel. Je voudrais, avant de revenir, discuter un peu avec Hervé, avec d'autres membres de la tribu, qu'on écoute quelqu'un qu'on a pu interviewer lors de son passage à Paris, Justo Pastor Mellao, qui est un peu une sorte de contrepartie chilienne. Il est critique d'art, il est commissaire d'art indépendant, et on avait discuté avec lui un peu du type d'artiste qui était présent, comment il les voyait, quelles étaient d'après lui les particularités, ce qui caractérisait cette brochette d'artistes présents dans l'envers du décor.
Ce sont des artistes qui pensent toujours à la nature du lieu, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire aller travailler et monter une expo à l'espace culturel Vuitton avec tous les effets symboliques que le mot Vuitton a. Déjà, le mot Vuitton te met dans une place de distance intéressante. On dit, qu'est-ce que ça a à faire? Deux, c'est qu'on ne prépare pas des œuvres pour la France, mais pour l'espace. Non des œuvres site-spécifiques, mais des œuvres qui, quand même, mettent en cause une certaine notion du voyage, une certaine notion du transfert, du transport. Toutes ces images d'architecture folle au bord de mer au Chili, c'est une métaphore aussi du Chili actuel. Il y a pas mal de méchanceté méthodique dans ces artistes qui se mettent d'abord face à un défi. Et ce défi, ils l'abordent avec une attitude, je dirais, un peu cartésienne. Ce sont des artistes qui connaissent la perversité chilienne. Ils sont très doués à ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sont des artistes du dédroulement. Ça, c'est très chilien, de brouiller les pistes. C'est un brouillage. Moi, je crois qu'il faut parler en termes radiophoniques à l'ancienne. Ce sont des artistes d'esprit très radiophonique, même s'ils ne travaillent pas dans un support radiophonique. Parce que dans la radiophonie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la voix. Il n'y a pas la représentation du corps. Et l'art chilien est un art qui exprime une certaine phobie à la représentation de la corporalité.
Hervé Mikhaïlov, Justo Bastón Mellao, ça a été un peu un complice dans le montage de cette exposition. Est-ce qu'elle vous convient, cette description qu'il fait, un peu de la brochette d'artiste, de ce qui les caractérise? Dans un autre passage, dans l'autre interview que nous avons fait avec lui, il parlait du fait qu'effectivement, cette exposition ne donne pas une image du Chili, mais plusieurs images, mais que s'il y avait un trait commun entre tous, c'était la façon de travailler, la méthode. Est-ce que vous le voyez comme ça ?
On a appelé l'exposition L'envers du décor parce que justement il y avait ce côté double, presque schizophrène, je trouve, dans l'art chilien. Ce qui est étonnant, et je crois qu'on l'a remarqué tous en voyant cette exposition, c'est finalement la non-représentation du corps. Et le Chili est très présent, les Chiliens sont très présents, mais il y a très peu de portraits. Il y a beaucoup de compositions, il y a une réflexion sur l'architecture, il y a une réflexion sur le paysage, il y a une réflexion sur l'identité chilienne, mais qui ne passe pas par la représentation du portrait, ou très peu. Et ça, c'est une chose qui n'était pas volontaire de ma part, mais que j'ai pu constater après dans les artistes qu'on a choisis.
Il y a évidemment d'autres artistes au Chili qui pratiquent l'art contemporain, qui ne sont pas là. Et d'après ce que Justo Bastón Mellao nous disait, il y avait eu un choix d'aller chercher des artistes plutôt nouveaux, plutôt émergents. Et c'est effectivement le choix qui a été fait.
Oui, c'était vraiment l'idée de briser les frontières et de briser aussi les clichés. Je pense qu'on se fait encore une idée de ce que peut être l'art chilien en France, qui était peut-être un petit peu dépassé, et qu'aujourd'hui les artistes qui ont 25, 35, même 40 ans ont envie de dépasser ces clichés-là, et même s'ils intègrent évidemment leur passé, s'ils intègrent évidemment les incidents politiques, s'ils intègrent évidemment le passé et l'héritage de la dictature, il y a dans cela une approche plus intellectuelle, plus conceptuelle, peut-être que la génération précédente qui avait besoin de montrer, d'expliciter, d'être plus peut-être symbolique au premier degré. Donc cette double lecture dans les œuvres, on parlait de l'œuvre de Carolina Cerkel sur le cuir vivant, me paraissait tout à fait symbolique de ça, parce que finalement c'est une pièce qu'elle a tournée à Paris, dans une rivière, et qui part d'un conte chilien. Et malgré tout, on peut y lire vraiment une double lecture, c'est-à-dire à la fois une pièce très impressionniste à fleur de peau et qui parle de cette histoire, et évidemment une pièce très aussi symbolique qui parle de l'effet de disparition et l'effet de disparition sous la dictature.
L'art contemporain est un art pensif, c'est-à-dire on réfléchit beaucoup avant de créer quelque chose. Et ça oblige aussi celui qui regarde à penser beaucoup pour essayer d'aller justement dans cet envers du décor, au-delà de l'image qu'il a devant. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de facile à réussir? Lorsque quelqu'un voit les images d'une grande piscine sur le bord de l'océan Pacifique, est-ce que ce quelqu'un met un temps à sentir qu'il y a là un paradoxe, à voir effectivement ce qu'en l'occurrence Nicolas Rupšić a voulu dire?
Je crois que oui, c'est preuve de l'art contemporain d'avoir différentes appréciations ou différentes interprétations. C'est le propre de l'espace Louis Vuitton de les accompagner, et je pense que le rôle de médiation que fait Marie-Ange avec toute son équipe est vraiment fondamental, parce que le visiteur est pris en main, sans être harcelé. Je pense que cette œuvre-là, elle se dévoile justement petit à petit par son absurdité, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on doit ne pas la comprendre pour mieux ensuite l'interpréter.
Est-ce que c'est une exposition, surtout dans l'œuvre sur le tremblement de terre, qui est plutôt que d'être à voir, elle est à ressentir?
Oui, c'était propre de Francesca Garcia quand elle a réalisé cette pièce sur le tremblement de terre qu'elle a symbolisée par l'échelle de Richter. C'était d'avoir un ressenti qui était un ressenti interactif avec le public, c'est-à-dire le tremblement qui est un tremblement qu'on peut entendre ici comme bruit de fond et qui vient dans l'exposition accompagner le visiteur plus qu'une reconstitution réellement d'un tremblement de terre comme on peut le voir dans des parcs d'attractions. Ça, c'était pas du tout son idée, mais c'était de mettre le visiteur en situation pour mieux ensuite parler, pour mieux montrer ces images qui finalement montrent peu de choses. Il montre les ruines, parle de témoignages. Ces images sont très belles, mais c'est pas l'esthétique de la déconstruction, c'est pas l'esthétique du journal télévisé. Et je crois que c'est ce décalage que doit aujourd'hui avoir les artistes, et que même après les événements qu'on a pu tous voir, c'est vraiment concret et réel.
Il y a sur les Champs-Élysées, donc, tous ceux qui se promènent voient l'immeuble Louis Vuitton, et cet immeuble Louis Vuitton finit dans une sorte de coupole. Alors, chaque fois que vous passez dans les Champs-Élysées, avant d'entrer dans l'exposition, je voudrais vous dire que vous pouvez imaginer que sous cette coupole, on entend cette musique.
Naranjita, naranjita, porque llora, porque tengo que... Ah, no se pasa mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la van a coger, se la van a agüitar de sangre de mi corazón.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con el embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba.